RMC, cours numéro 1.
Bienvenue sur cours numéro 1 pour ce podcast quotidien de ce Roland-Garros 2026. On va évidemment évoquer cette troisième journée des qualifs et je vous livre une clameur comme on les aime. C'était sur le court 14, fin d'après-midi, lumière magnifique, joli petit soleil. Et Kyrian Jacquet vient de battre le Bosnien Nerman Fatic à l'issue d'un match dramatique, 6-2, 3-6, 7-6 avec un super tie-break emporté. 10 points à 8 dans une ambiance que vous devinez. Donc Kyrian Jacquet qui est une sorte de spécialiste des qualifs de Roland puisqu'il s'était extirpé déjà en 2025 de cette épreuve, eh bien il aura une nouvelle fois un troisième tour à disputer, mais surtout, eh bien, on a évoqué avec lui ce plaisir fou d'évoluer sur le court 14, cette petite arène qui transcende souvent les joueurs français. Et il est parvenu donc à s'en sortir malgré des hauts et des bas, malgré peut-être une blessure de son adversaire qui l'a un peu déstabilisé. Mais au bout du compte, donc, il s'en est sorti. Et écoutez donc la joie de Kyrian Jacquet et surtout la manière dont il parle de ce court 14 qu'il découvrait donc pour la première fois.
Bah, on sait très bien que c'est un chaudron, donc voilà, c'est le court où il y a le plus d'ambiance parce que c'est les plus gros fans. En plus, il y a toute la tribune bleue, donc voilà, il y avait une ambiance de dingue. Ça m'a pris au cœur direct quand je suis rentré sur le court, quand il y a la Marseillaise, quand ça a crié. Et au final, je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de monde ou autant de bruit. Du coup, ça m'a mis un petit coup de stress au début. Mais voilà, c'était un régal du début à la fin. Ils m'ont poussé jusqu'au bout, donc je ne peux que les remercier.
Kyrian Jacquet, donc, qui est l'un des 5 Français à avoir franchi le cap du deuxième tour, hein, puisque vous le savez, l'intégralité du deuxième tour était disputée ce mercredi à Roland-Garros. Donc le bilan, 4 garçons qui passent et une jeune fille qui passe, on va y revenir tout à l'heure. Mais pour Kyrian Jacquet, c'est un drôle de parcours parce que c'est un garçon qui a été opéré du coude début avril. Et donc il a livré une sorte de contre-la-montre pour être opérationnel pour ce tournoi qui lui tient tant à cœur au Lyonnais. C'est vrai qu'il y a 2 jours, j'avais assisté à sa conf et je lui avais dit je suis un peu surpris par tous les tapes qu'il a au pied, à la jambe, au bras. Et il m'a rigolé au nez en disant oui, je ressemble un peu à une momie, mais la momie, elle a encore plein de ressources, donc pourquoi pas aller chercher ce ticket pour le tableau final. Ce serait évidemment une formidable récompense pour Kyrian Jacquet, donc il n'a pas joué pendant début avril. Oui, ça fait presque un mois et demi qu'il était hors du circuit, mais voilà, c'est la magie de Roland. Donc il va jouer le tour décisif vendredi, ça c'est un vrai plus, il va avoir un jour de récupération puisque les troisième tours se disputent sur 2 jours et son adversaire sera l'anglais Félix Gilles, 237e mondial. Donc superbe perf pour Kyrian Jacquet dans une ambiance fabuleuse, fin de journée, il n'y a pas mieux. D'ailleurs, j'enregistre ce podcast alors qu'il y a encore un match qui se joue, il est quand même 20h42, je suis sur les chaises longues, donc sur la place des Mousquetaires, et encore quelques personnes qui regardent le match du 8 qui oppose Cadenasso italien à Riedi le Suisse, et ça intéresse fortement Pierre Gerber, puisque lui, il a eu de la veine, il devait jouer l'anglais Chonsky sur le cours Suzanne Aglen, et l'anglais s'est retiré, donc Pierre Gerber est passé par WO, et il attend donc de connaître l'identité de son adversaire, soit l'italien, soit le Suisse Riedi, qui avait fait finale des juniors, je m'en souviens, il y a quelques années, il avait été battu par son copain Stricker. Donc ce sera un match compliqué pour Pierre Gerber, quoi qu'il arrive, puisque Cadenasso, on l'a vu à Rome, il a très bien joué, il a failli battre Tirante. Et Riedi, c'est un garçon qui aime la terre et qui a déjà donc brillé ici en junior, qui n'a pas été épargné par les blessures. Les deux autres Français qualifiés, on va commencer par la belle sensation, c'est Thomas Forel. Thomas Forel, 382e joueur mondial, qui a bénéficié d'une wildcard, donc la Fédé misait beaucoup sur lui. Et c'est vrai que sur le 7, eh bien, il a livré un match parfait face à Jay Clark, l'anglais, victoire en en deux manches. Le 7, c'est un cours fétiche puisqu'il a joué tous ses matchs sur le 7 hein, dans toute sa carrière. Il y a deux ans, il avait perdu. Et puis, en début de semaine, il a remporté son premier tour. Ah, je peux vous dire que le match de Thomas Forel, il était suivi de très très près par les dirigeants de la Fédé, notamment Ivan Ljubicic, Laurent Raymond. Et dans le box de Thomas Forel, il y avait aussi un champion du monde, l'un des meilleurs joueurs de hand que l'histoire est connu, à savoir Karabatic. Et Thomas Forel nous explique un peu comment Karabatic s'est retrouvé dans son box. Et comment il donne un petit coup de main à son coach habituel, puisqu'il travaille avec l'académie de Jean-René Lisnard à Cannes. Donc écoutez Thomas Forel, tout jeune encore, qui est à deux doigts de vivre une expérience folle, puisqu'il ne lui manque plus qu'une victoire. Thomas Forel.
Il m'aide dans plusieurs domaines, surtout ce qui est préparation de match. Tout ça, il y a énormément de choses à apprendre d'eux, parce que ça a été des super sportifs dans n'importe quelle discipline. C'est très intéressant d'avoir leur point de vue et comment eux ils faisaient des choses pour pouvoir apprendre de ça et mettre en place des choses qui marchent pour moi.
Comment Nicolas Karabatic est arrivé dans ton staff, je ne sais pas ce qu'on peut dire, mais comment il est arrivé dans le box?
Il est très proche avec mon entraîneur. Alors j'ai pas trop eu l'occasion de discuter avec lui encore, mais ça va venir petit à petit. Voilà, avec mon entraîneur, ils ont une super bonne relation. Ça fait, je pense, une vingtaine d'années qu'ils se connaissent. Donc,
Il te parle avant le match ou pas du tout?
Non, non, c'est surtout mon entraîneur. Après mon entraîneur, bien sûr, je suis sûr, le connaissant, il s'inspire d'eux, il discute beaucoup avec eux. Et pour ma préparation de match, la façon dont il me parle, je suis sûr que c'est. Il leur pose des questions et tout ça pour que lui aussi progresse en tant qu'entraîneur.
Thomas Forel qu'on retrouvera donc ce jeudi, quelques heures, quelques minutes presque avant le tirage au sort de Roland-Garros, on en reparlera. Il sera opposé sur le cours Susanna Glen au Tchèque Dalibor Świrna, 111e mondial, tête de série, un client. Mais avec ce qu'il montre depuis deux tours, eh bien Thomas Forel il aura ses chances, faudra juste les saisir. Donc Jacquet, Forel, Herbert et le quatrième qualifié, c'est Luka Pavlovic, qui a eu, lui, la chance de jouer sur le cours Suzanne Lenglen. Victoire en 3-7 contre le Chilien Barrios Vera, 6-2, 6-7, 6-2. Belle satisfaction pour ce joueur qui a des racines serbes, hein, comme son nom l'indique, mais qui est né en Seine-Saint-Denis, d'ailleurs qui joue en interclub pour un club de Seine-Saint-Denis. Il s'est fait peur parce que il n'a pas très bien joué le tie-break du deuxième puisqu'il a mené 3-0 avant de couler un peu. Mais heureusement, grâce au soutien du public, eh bien, il est parvenu à s'en sortir donc en trois manches et au prochain tour. Donc vendredi, un jour de repos aussi pour le tricolore, il jouera l'Américain Darwin Blanche. Alors lui, il revient de très très loin parce que lorsque le tableau est sorti dimanche après-midi, il n'était pas dans le tableau. Il était, comme on dit, première alternate. Et donc... il se trouve que je l'avais croisé lundi parce que c'est un garçon qu'on a l'habitude de voir sur le circuit. Il était formé à l'académie de Juan Carlos Ferreiro. Et quand je l'ai croisé, je me suis mis un peu à sa place. Le mec, il est là depuis, bon, j'imagine samedi. Et il attend un retrait. Et ce retrait, il est arrivé mardi. Je crois que c'est le Danois Möller qui s'est retiré ou l'Allemand Möller. Il faudrait vérifier parce qu'il y a deux Möller. Il y a un Allemand et un Danois. Donc, je ne voudrais pas dire de bêtises. Donc, à vérifier. Et donc, il a pu intégrer le tableau des qualifs. Et le voilà donc désormais qualifié pour le troisième tour. 18 ans seulement, gaucher de grand talent. Ce sera un match compliqué pour Luka Pavlovic. Mais avec le soutien du public, ça peut passer. On va rester chez les hommes avant de rendre hommage à Harmonitan. Chez les hommes, il faut quand même saluer le départ de David Goffin. Il n'a pas pu franchir le deuxième tour des qualifs malgré le fait qu'il l'avait reprogrammé sur le cours Suzanne Lenglen. Mais David Goffin était un peu court aujourd'hui. Et donc, c'est fini pour lui. On ne reverra plus à Roland. Et il a eu droit à un bel hommage de la part de la Fédé puisqu'il y a eu un petit clic qui est passé où on a montré les meilleurs moments de sa carrière avec des matchs contre Gaël Monfils, contre Rafa Nadal. Il y a juste eu un oubli. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé au sein de service de la Fédé, mais ils ont totalement oublié de nous remontrer des images du match qui a lancé David Goffin. C'était un match en plus sur le Lenglen contre Roger Federer. Peut-être que les cassettes vidéo ont disparu, mais en tout cas, ils ont montré en revanche le moment où il s'est fait mal. Vous savez, c'est un souvenir terrible. Il s'était pris les pieds dans la bâche. Je ne sais plus contre qui c'était, mais ça avait malheureusement conduit à son abandon. Et il l'a dit... Non mais je travaille là. Et je suis désolé, j'étais gêné par quelqu'un de la sécurité qui croyait que que j'étais là en tourisme. Non, je travaille, monsieur. Oui, j'ai un peu perdu le fil. Oui, ils ont montré l'image où s'était pris les pieds dans la bâche. Donc, et d'ailleurs, il s'en est amusé lorsqu'il a eu le micro. Il a dit, ouais, ça m'a fait mal quand même de revoir cette image. Donc, terminé pour David Goffin. C'est dommage pour le Belge, parce qu'en plus, il avait attiré beaucoup de supporters venant de Belgique. Mais il va laisser une trace énorme ici à Roland-Garros. Chez les filles, il faut saluer la performance extraordinaire d'Harmony Tan, 28 ans, 225e mondial, qui est venue à bout de la chinoise Xinyu Gao. Belle perf, parce qu'on sait que la terre battue, c'est pas sa surface préférée, mais elle s'est battue malgré des douleurs, malgré des crampes, je crois, et donc elle passe le deuxième tour. C'est la seule française qui sera au rendez-vous du troisième tour. Elle jouera vendredi contre Linda Fourvitova. Donc Harmony Tan qui va tenter de rallier le tableau final. Elle le sait qu'à 28 ans, elle n'est pas dans les petits papiers de la Fédé. Elle n'a pas eu la wildcard pour le grand tableau. Mais voilà, elle joue avec ses armes. Et c'est vraiment une belle victoire qui s'est dessinée sur le court numéro 13. Voilà donc le bilan de cette journée. Et franchement, 5 qualifiés pour le troisième tour. Moi, j'aurais signé, parce que c'était loin d'être évident, et donc on peut espérer de belles émotions donc jeudi et vendredi, puisque je vous le rappelle, un tour décisif se déroule sur 2 jours. C'est peut-être pour ne pas faire ombrage au tirage au sort qui aura lieu jeudi à partir de 14h. C'est un grand moment dans un grand chelem, mais plus que jamais, c'est un rendez-vous qu'il ne va pas falloir rater, parce qu'on attend tous avec impatience le verdict de ce tirage. Alors on a l'identité du monsieur qui va plonger sa main dans la coupe et ressortir les petits jetons. Grosse responsabilité pour Tony Estanguet, puisque c'est lui qui a été choisi par Gilles Moreton et ses équipes pour procéder à ce tirage au sort. Oui, il faut que Arthur Fils soit dans la partie basse du tableau, c'est aussi simple que ça, c'est le grand suspense, mais je pense qu'il y a 126 joueurs qui vont attendre d'être basculé dans le bas de tableau, puisque oui, suivez l'actu du tennis, Yannick Sinner se présente comme un épouvantail, et donc tous les joueurs du tableau, donc hormis Zverev qui lui sera placé tout en bas avec le statut de tête de série numéro 2, donc ça nous laisse 126 joueurs qui vont prier pour que Tony Estanguet, enfin je parle surtout des têtes de série, parce que Tony Estanguet ne va tirer que les têtes de série, hein, c'est le protocole. Tous les autres joueurs qui ne sont pas têtes de série, c'est l'ordinateur qui va. Il suffit d'appuyer sur un bouton avec sous les yeux d'un huissier de justice pour vérifier que tout se fait proprement. Et oui, c'est un bouton qui va déterminer les adversaires donc qui ne sont pas têtes de série. Mais grosse responsabilité donc pour Tony Estanguet. Alors Arthur Fils, vous avez peut-être envie d'avoir des nouvelles. Écoutez, j'ai mené l'enquête parce que quand on arrive le matin, on a la liste évidemment du practice. Et Arthur Fils était sur à Jambouin à 15h. Il avait un créneau, le cours 21 de mémoire, à Jambouin. Donc j'ai fait une intervention au Moscato Show à 15h30. Et puis ensuite, j'ai couru pour aller à Jambouin. Et je suis tombé sur des copains de l'équipe qui m'ont dit « ça sert à rien que tu y ailles. Il n'a pas tapé, il n'est pas là. Il est déjà parti. » Ah, j'ai regardé, j'ai dit « c'est pas possible. Il y a un problème. » Non, il n'y a pas de problème. Mais on l'a vu, on l'a aperçu, il était souriant. Alors, deux hypothèses. Soit le staff d'Arthur Fils est très fort et bon, ils ont un peu bricolé le practice parce que peut-être qu'ils ne voulaient pas que sa session d'entraînement soit suivie par la presse, parce que oui, il y a un point d'interrogation. Où en est-il après son abandon à Rome? Donc, la théorie numéro un, c'est qu'il a peut-être tapé vers 13h et personne ne l'a vu, parce que le centre d'entraînement de Jambouin, il est ouvert aux médias. Mais nous, évidemment, on se base sur ce qu'on nous indique. On ne va pas passer 3h ou la fin de matinée à Jambouin pour guetter ce qui se passe. Soit il a tapé avant, et là, je ne peux pas vous donner d'infos. Soit il a tapé plus tard, soit il a tapé au CNE. Puisque vous savez qu'au CNE, il y a 2 cours couverts où là, les médias ne sont pas autorisés à surveiller, à observer ce qui se passe. Donc on n'a pas d'infos sur Arthur Fils. Et j'espère juste que voilà, il sera demain tête de série numéro 17. Ah oui, alors là, j'ai une théorie sympa à vous livrer, puisque vous allez me dire tête de série 17, c'est moins bien que 16. Eh bien, pas forcément, parce qu'on a étudié toutes les options. Quand vous êtes tête de série numéro 16, vous avez une chance sur 4 de jouer Yannick Sinner en 8e de finale. Quand vous êtes tête de série numéro 17, vous avez une chance sur 8 d'être dans la zone de Yannick Sinner. Ne me demandez pas pourquoi. Finalement, le fait qu'il ait été dépassé par Casper Ruud, c'est peut-être une bonne opération. Donc on va maintenant croiser les doigts et on va voir ce qui va se passer. Donc jeudi vers 14h, 14h15, 14h30, selon le timing de cette cérémonie qui est toujours très attendue, qui se déroule à l'Orangerie, tout près du cours des Serres. Donc grand moment de ce Roland-Garros, parce qu'on espère que Tony Tsonguy ne va pas faire de bêtises. Il y a 2 ans, Marie-José Pérec était effondrée après avoir tiré Zverev pour Rafa Nadal. Donc là, pas de bêtises, Tony. Tu as tout réussi dans ta carrière. Les Jeux Olympiques, c'était parfait. Donc il ne faut pas se trouver sur la cérémonie du tirage au sort de Roland Garros. Voilà, je lui mets un peu de pression, mais c'est vital ce qui va se passer jeudi vers 14h, 14h30. Bon allez, j'arrête là, sinon je vais dire des bêtises, je vais vous sortir la théorie des boules chaudes, des boules froides. Ça n'existe pas, on peut pas truquer un tirage au sort de Grand Chelem. Voilà, allez, ciao, ciao, à bientôt.